Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Eric, Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Albin Michel un nouveau livre et vos livres sont très attendus. Il s'agit de Soleil sombre. Alors vous êtes dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur et comédien franco-belge. Vous êtes installé à Bruxelles depuis 2002. Vous avez obtenu la naturalisation belge en 2008. Vous avez étudié à l'école normale supérieure et obtenu l'agrégation de philosophie en 1983. Et en juin 2012, vous êtes élu à l'Académie royale de la langue et de littérature française de Belgique, au fauteuil 33, celui qu'avaient occupé Colette et Cocteau. En 2016, vous devenez membre du jury de l'Académie Goncourt et vous publiez un roman très important, L'homme qui voyait à travers les visages. Alors, vous avez écrit des nouvelles très très célèbres, célébrées, Odette Tout le monde et autres histoires en 2006, La vengeance du pardon, très beau livre en 2017. Nous avons parlé ensemble de ce livre, n'est-ce pas ? Le cycle de l'invisible qui regroupe plusieurs romans et récits, Milarepa, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran en 2001, Oscar et la Dame Rose.
La Dame Rose.
La Dame Rose, oui, 2002. Et puis des récits autobiographiques comme La Nuit de Feu en 2015, qui est un récit, et Le Journal d'un Amour Perdu en 2019. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler de Soleil sombre, qui fait partie d'un cycle de 8 volumes, La traversée des temps. Deux ont été déjà publiés, le troisième c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis il y a à paraître plusieurs autres volumes. En tout, ce sera une somme de 8 livres, 8 écrits. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet du cycle de La traversée des temps ?
La traversée des temps, c'est notre histoire, à nous, l'humanité, racontée de façon romanesque. Qui parle, qui raconte l'histoire ? Eh bien, Noam, mon héros, qui naît il y a 8000 ans. Il se trouve que Noam va découvrir qu'il ne vieillit pas, qu'il ne meurt pas, qu'il est doté d'une régénération qui fait qu'il peut traverser les siècles. Il est immortel. Au début, il s'en réjouit. Progressivement, il va se rendre compte que cette immortalité, c'est une solitude terrible. Et puis, c'est une situation pas si facile que ça. Mais Noam, après une longue hibernation, qui se réveille dans notre monde, voit l'angoisse qui transit notre monde, l'angoisse écologique, etc. Et se dit, comme nous tous, comment sommes-nous arrivés là ? Comment avons-nous dominé, étouffé la nature à ce point-là, au point de mettre en danger les autres espèces de flore, de faune, et peut-être même notre vie même sur la Terre ? Et du coup, Noam s'est décidé à écrire ses mémoires, à raconter son histoire depuis 8000 ans, et son histoire, c'est la nôtre. Et donc, chaque tome raconte ses amours, ses amitiés, ses grandes rencontres, enfin, c'est très romanesque, mais en même temps, chaque tome se passe dans un moment de bascule pour l'humanité, un moment où elle change de trajet et amène progressivement l'état dans lequel nous vivons. Donc voilà, c'est un projet de raconter l'histoire de l'humanité, mais d'une façon romanesque.
Alors vous reprenez comme cadre les éléments de la Bible, les personnages, et de façon assez libre.
Libre parce que c'est ma réflexion qui me pousse à présenter les choses comme ça. Mais effectivement, dans le premier tome, je parlais évidemment du déluge, en montrant d'ailleurs que la Bible évoque un réel déluge qui s'est produit il y a 8000 ans, puisqu'il y a eu un réchauffement climatique et la Méditerranée est montée de 109 mètres et elle s'est déversée au Bosphore et aux Dardanelles dans les plaines de l'Ukraine qu'elle a envahies et elle a créé la mer Noire. Et donc les hommes ont gardé un souvenir traumatisant de ce moment-là qu'ils ont appelé le déluge. Dans le deuxième tome, La Porte du Ciel, je raconte le roi Nemrod, la cité de Babel, la construction de Babel, etc. Et puis on rencontre Abraham, personnage essentiel pour les trois monothéismes. Et je raconte comment j'inscris Abraham dans une lignée d'hommes qui finalement veulent vivre comme les nomades, nos ancêtres nomades, chasseurs-cueilleurs, où la terre n'appartient à personne, contre le monde nouveau qui se crée en Mésopotamie avec des cités, des hiérarchies sociales et la propriété. Et puis dans Soleil sombre, eh bien de nouveau, je revisite un épisode extrêmement important de la Bible, c'est-à-dire c'est Moïse et les fameuses plaies d'Égypte, et puis la constitution problématique du peuple juif, puisque j'ai dit problématique parce que il y a plusieurs conceptions qui sont à l'œuvre du judaïsme à l'intérieur de la Bible, côte à côte, et j'essaye de montrer un peu comment les choses se passent.
Alors, vous parlez de revisiter. Ce sont des cadres qui charpentent l'âme humaine, notre oui. Le côté de notre humanité. Comment nous sommes arrivés à ce degré d'humanité dans notre conception de notre vie et par rapport aux autres et par rapport aux animaux, par rapport à la terre. Vous revisitez. Cela peut déranger. Cela doit certainement déranger certaines personnes c'est la religion, puis même les mythes, charpentent la façon de réfléchir, de penser, d'avancer dans la morale, dans le respect des autres, donc dans cette idée d'humanité. Qu'est-ce que vous proposez à la place de ces mythes, hein ? Oui.
Moi, je crois que réfléchir sur les mythes ou réfléchir sur l'écriture de la Bible, ça appartient à toute démarche spirituelle. Et on sait très bien que dans la tradition judaïque, c'est même l'exercice spirituel par excellence. Et moi, qui suis en plus profondément, qui est quelqu'un qui par ailleurs est la foi, et appartient au judéo-christianisme, je me délecte de réfléchir sur la façon dont la Bible raconte, parfois de manière contradictoire, des événements, et du coup je donne à réfléchir, je donne à penser. Je pense par exemple les représentations qu'on a de Moïse à travers les films hollywoodiens où on voit des Charlton Heston ou d'autres acteurs bodybuildés avec des figures de héros athlétiques pour représenter Moïse, sont vraiment des contes pour les enfants. Moïse n'était pas du tout un athlète, Moïse était bègue, et il était obligé d'appeler son demi-frère Aaron pour pouvoir parler aux foules. Moïse était plus fait d'interrogations que de déclarations. Ça m'intéresse beaucoup de en partant de la Bible, justement, essayer de donner à penser, de donner à sentir et de donner à réfléchir. Voilà, moi je présente un Moïse plus interrogatif, un vrai mystique législatif à vocation universelle. Voilà. Mmh. Et il me séduit et sa force, elle est là. Mais à côté de lui, il y a Josué qui, lui, interprète ce que dit Moïse d'une autre façon. Parce qu'au fond, Moïse est à la recherche non pas tant d'une terre promise que d'un ciel promis. Et puis Josué, lui, est sur la notion de terre promise, ce qui est une autre définition encore du judaïsme et une autre façon d'exister du judaïsme. Et puis à côté, dans la Bible, il y a tout d'un coup des généalogies qui montrent qu'en fait, le judaïsme, c'est l'appartenance à une ethnie. Et ces trois choses coexistent dans tous les épisodes de la Bible, sans qu'on les sépare. Et alors moi, je m'amuse avec avec, je pense, le regard d'un intellectuel aujourd'hui et aussi d'un romancier, de dire, bah, attendez, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui. Alors, Noura est une figure importante, sensuelle, une jolie fille. C'est l'ancienne Sarah. Alors, oui. Alors, c'est un petit peu un grand écart.
Oui. C'est la Sarah d'Abraham. Oui, oui. Oui, parce que bon, bah, je suis très ludique. Hein,
ah ben oui, que... justement, il faut apporter cette dimension. Votre livre est tout à fait passionnant parce que il y a cette dimension ludique. Il y a de l'humour, il y a de l'érudition. C'est étincelant de richesse. Votre érudition et aussi vous basez aussi sur des découvertes historiques, sur la science. Oui. Il y a aussi la pharmacopée et les plantes médicinales. Oui. Tout ça, c'est vraiment très jouissif dans votre livre. Alors, Noura, parlez-nous de Noura et peut-être on parlera aussi de Brita.
Oui, ben Noura, c'est pour Noam, c'est la grande rencontre. C'est celle qui crée un avant et un après. Il ne serait jamais devenu l'homme qu'il est. Il ne serait jamais devenu lui-même s'il n'avait pas rencontré Noura. Au fond, cette jeune fille, elle lui a fait accoucher de lui-même. Autrement, il aurait été juste, c'était le fils de son père et un membre de la tribu. Et il est devenu singulier par son attachement à cette femme extraordinaire. Alors Noura, c'est une femme qui a l'audace d'être elle-même dans n'importe quelle société. Quoi qu'on assigne comme tâche aux femmes, elle fait ce qu'elle veut. Je pense qu'à toutes les époques, il y a eu des femmes comme ça. Des femmes qui savaient secouer les carcans de la condition féminine et qui avaient décidé de vivre leur propre vie comme elles l'entendaient. Elle a une force absolument incroyable. Elle est très difficile à appréhender parce que elle ne réagit jamais comme on s'y attend et elle n'est jamais là où on l'attend. C'est vraiment une personnalité flamboyante et adamantique, quoi. C'est un diamant. C'est un diamant. Elle avait de multiples facettes, cette femme. Et évidemment, c'est la femme de la vie de Noam. Et il se trouve qu'elle a le même don d'immortalité que lui. Et donc, je raconte à travers tout cet homme aussi une histoire d'amour qui va s'étaler sur des milliers d'années. Alors, avec toutes les couleurs que peut prendre une histoire d'amour, puisqu'ils ne sont pas... Ils sont immortels, mais ils ne sont pas synchrones dans leur histoire d'amour. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, mais ils ne sont jamais au même moment
ensemble. Ils ne sont pas en phase.
De leur histoire d'amour, oui. Exactement. Et donc, ça crée évidemment des distorsions, ça crée des distances, des incompréhensions, des abandons, des rejets, des jalousies, des refus, etc. Donc, c'est un couple absolument passionnant. Et j'avoue qu'un des grands enjeux de cette écriture, c'est vraiment d'écrire l'histoire d'amants immortels. Ça, c'est finalement, personne ne l'a fait. Et c'est un des grands enjeux pour moi de l'écriture de la traversée des temps.
Alors justement, ils sont tous les deux éternels. Ils ont ce don. Et il la regarde quand il la voit. Elle a toujours 25 ans. C'est aussi le symbole de l'amour. La personne qui vous regarde avec les yeux de l'amour passe par-dessus vos défauts, ne voit toujours que le moment fondateur de la rencontre qui investit toute une vie. C'est le coup de foudre. Et cette éternité, c'est un symbole.
C'est-à-dire que oui, la rencontre avec l'autre, avec les gens qu'on aime, c'est un présent éternel. Noura, dès qu'elle apparaît, elle efface le passé. Parce qu'elle est tellement... là, avec intensité, je dirais presque avec violence, que même Noam, qui pourtant a tellement de souvenirs avec elle, y compris des souvenirs mauvais, il y en a beaucoup de bons, mais il y en a plein de mauvais, elle efface tout par l'intensité de sa présence. Et ça, c'est l'autre éternité, et c'est la seule à laquelle nous, pauvres humains mortels, nous pouvons accéder, c'est l'éternité de l'instant, c'est-à-dire l'intensité absolue du présent.
Oui, alors il y a donc Noam, on en a parlé, il y a ce côté de passion pour les plantes médicinales qu'il a hérité de Tibor qui est le père de Noura.
Oui, Noam est le fils d'un chef, mais n'a pas voulu être chef et toujours chef par accident, simplement parce qu'il est responsable des gens qu'il aime. Mais sa vraie passion, c'est effectivement, il l'a prise à son beau-père, au père de Noura, c'est la passion de guérir les autres. Et c'est très net chez Noam, c'est-à-dire qu'il a, c'est pas le souci chimique de trouver les bons élixirs ou les bonnes lotions, c'est vraiment le soin de l'autre, lui apporter son temps, son attention et le soulager de ses douleurs. Et donc ça me permet de raconter l'histoire de la médecine. C'est-à-dire dans le premier tome, j'ai pu montrer comment on pratiquait déjà des opérations au cerveau à l'époque du néolithique. On en a la preuve aujourd'hui. On pouvait faire des trépanations pour décongestionner certains esprits. J'ai montré comment on trouve l'aspirine, c'est-à-dire dans l'écorce du saule, on trouve alors les anciens disaient un génie, un démon qui enlève les douleurs, mais nous on sait que c'est une molécule qui enlève les douleurs. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer comment, avec des raisonnements totalement différents, nos ancêtres arrivaient à trouver des remèdes. Par exemple, là, dans Soleil sombre, qui se passe en Égypte, je rappelle un secret perdu qui était le test de grossesse que faisaient les Égyptiennes. Elles urinaient sur un sachet d'orge et un sachet de blé. Et si l'orge ou le blé germait, cela signifiait qu'elles étaient enceintes. On a vérifié aujourd'hui en laboratoire. C'est vrai, c'est juste. Il y a effectivement une hormone dans l'urine de la femme enceinte qui provoque la germination, alors que l'urine d'un homme ou l'urine d'une femme non enceinte éteint la germination. Et donc, en fait, il y a ces magnifiques savoirs découverts par les hommes qui ont disparu, qu'aujourd'hui la science permet de revalider. Alors, c'est pour moi aussi une manière de célébrer le génie humain. Mmh.
Alors, de l'âme, de la magie, nous migrons vers l'esprit, vers la science. Cette évolution est visible dans votre texte. Et c'est très, très passionnant, surtout par rapport à cette jeune Britta qui est carrément une jeune fille de notre temps.
Oui, parce qu'il y a toujours des allers-retours entre Noam au présent, dans notre monde, et puis ses mémoires qui nous racontent sa vie dans une autre époque. Et au présent, effectivement, il y a une certaine Britta qui ressemble à une certaine Greta.
Oui.
Et qui est l'incarnation de notre temps et l'incarnation du souci écologique et de l'angoisse concernant l'avenir. Et effectivement, Noam s'occupe de cette jeune Britta et qui est malmenée et qui va être la victime d'un attentat. Et ça va l'amener en Californie, dans la Silicon Valley, où pour la guérir, il va faire appel aux techniques de pointe qu'on est en train de mettre en place là-bas, c'est-à-dire les techniques du transhumanisme. Et là, tout d'un coup, on se rend compte, simplement parce que les histoires se passent en parallèle, que c'est exactement le même souci qui habitent les transhumanistes aujourd'hui, qui travaillent à allonger la vie du corps, voire à le rendre immortel, c'est le même souci que celui des prêtres égyptiens, des embaumeurs, qui fabriquaient à partir du corps des momies qui conservaient le corps et qui lui permettaient d'accéder à sa deuxième vie dans l'au-delà. C'est-à-dire que les formes changent, les soucis restent. La lutte contre la mort, le refus de la mort est présent à toutes les époques et a forcément des incarnations différentes selon les époques. En fait, quand on écrit comme ça une histoire de l'humanité, on se rend compte que on doit parler à la fois de ce qui change et de ce qui ne change pas. Ce qui change, c'est l'histoire, la forme que prennent les choses. Ce qui ne change pas, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire l'être humain avec ses angoisses, ses désirs et sa condition.
Alors, la traversée des temps, ce cycle de 8 volumes, alors je rappelle donc déjà paru Paradis perdu, La porte du ciel, Soleil sombre dont nous sommes en train de parler, Apparaître, il y aura La lumière du bonheur, Les deux royaumes, La mystification, Le temps des conquêtes et révolutions. Alors, c'est prodigieux de connaissances, d'érudition. Et je me suis dit dans ma petite tête, mais je le dis à voix haute, que si on fait le deuil de sa religion, on apprend beaucoup. Et on apprend, ça élargit la conscience par toutes ces remarques et toutes ces réflexions que vous mettez dans votre livre. Il y a de la science. Vous avez porté ce livre longtemps, vous.
C'est très, ça fait. J'ai eu l'idée de ce livre à 25 ans, mais je n'étais capable à 25 ans que d'avoir l'idée, pas de réaliser cette idée. Et en fait, cette idée est devenue un programme de vie. Je me suis dit, il faut que tu fasses en sorte qu'un jour tu sois capable d'écrire ce grand cycle romanesque. Ça supposait évidemment accumuler ces connaissances, les classer, les inventorier, les filtrer, avoir ma propre réflexion sur l'histoire des religions, sur l'histoire des spiritualités, sur l'histoire de la médecine et sur l'histoire politique, etc. Donc ça supposait tout ce travail-là. Et c'était aussi prendre confiance dans mes moyens de romancier pour me dire que oui, j'allais être capable d'aller jusqu'au bout. Et effectivement, il y a 3 ans, j'ai pris la plume et ça y est, je me suis rendu compte que j'étais prêt. Ça coulait de source, exactement comme mes autres livres.
Et quelle est la période où vous auriez aimé vivre, vous ?
Moi, j'aurais aimé vivre au XVIIIe siècle. Oui, j'aime ce siècle qui est à la fois insolent et joyeux, qui remet tout en question, mais qui cultive le bonheur. Qui met en avant la philosophie, mais n'abandonne pas l'art. Un siècle qui questionne, mais un siècle qui ne s'angoisse pas. C'est sans doute un siècle qui va nous livrer de l'angoisse après, pour les siècles suivants. Mais à ce moment-là, il y a une espèce d'allégresse à penser, d'allégresse à tout remettre en question, qui s'accompagne d'une joie d'exister. Oui, j'aime profondément ce siècle, le 18e.
C'est votre état d'âme actuel et le livre à paraître, le titre, déjà augure de cet état d'âme, la lumière du bonheur.
Oui, oui, parce que alors, le prochain tome, il est dans une autre période que j'adore. On va se trouver à Athènes, en Grèce, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce moment, alors vraiment décisif pour l'histoire humaine, puisque nous continuons à développer des choses qui sont apparues dans notre histoire à ce moment-là. C'est-à-dire, on invente la démocratie, on invente la philosophie, la science vraiment comme telle, et on invente aussi le théâtre.
Ah, voilà.
Et les Jeux Olympiques. Donc, oui, c'est un siècle où chaque volume fait 575 pages. Là, j'ai peur de faire plus, tellement ce siècle est passionnant. Et en plus, il se trouve que moi, je suis helléniste de formation. Je suis rentré à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en tant que lettres classiques, latin, grec, français. Et après, je me suis consacré à la philo. Donc, c'est des textes que j'ai fréquentés depuis toujours. Donc, voilà, j'aime passionnément l'époque grecque. J'en connais les ombres, j'en parlerai aussi. Mais c'est vraiment un moment brillant de l'histoire de l'humanité sur laquelle nous vivons encore de ce moment-là.
Éric-Emmanuel Schmitt, votre dimension, c'est celle de l'encyclopédie.
Oui. Oui, c'est vrai. Que vous saviez, ma mère, jusqu'à sa mort, elle m'a offert à chaque anniversaire, à chaque fête, à chaque Noël, ou à chaque occasion, par exemple une première de théâtre, elle m'offrait soit un dictionnaire, soit une encyclopédie. J'aime me coucher le soir en feuilletant un dictionnaire ou une encyclopédie. Depuis que je suis tout petit. Et quand j'avais 23 ans, j'ai fait mon doctorat de philosophie sur le premier encyclopédiste, c'est-à-dire Diderot.
Diderot, voilà.
Voilà. Ce que j'aime dans l'encyclopédie, c'est que c'est un savoir sans hiérarchie. Dans une encyclopédie, il est aussi important de savoir comment on brode que de savoir comment on fait du pain, que de savoir comment on construit un bateau, ou la métaphysique d'Aristote, ou les théorèmes de Pythagore. Il n'y a pas de savoir plus noble qu'un autre. Et ça correspond, moi, à ma curiosité absolue de la condition humaine et aussi de la nature. tout m'intéresse, sans hiérarchie.
Et votre, ce projet de ces 8 volumes, dont nous avons déjà pu avoir entre les mains les 3 premiers, respire cet amour de l'universalisme, de l'encyclopédie, et l'idée d'encyclopédie vous a forgé l'âme, vous vivez comme ça.
Oui. Et puis je crois que ça se sent beaucoup dans les 3 volumes, dans les notes qui sont en bas de page.
Absolument. Hein? On apprend beaucoup dans les notes de bas de page qui sont de véritables, pas exposés, mais éclairages sur... Parce que lorsque nous lisons un texte, nous avons toujours plein de questions et nous restons un peu sur notre fin. Mais là, non. Il y a des réponses scientifiques, historiques, bien avec, dans votre écriture tout à fait fluide, miscible avec notre capacité de compréhension, nous les lecteurs, et ce sont des livres utiles, intéressants, et comme je l'ai dit, ça je le dis pour les auditeurs qui diraient, mais quand même, il a chamboulé les personnages de la Bible, mais quand même, il y a des anachronismes criants parfois, comme lorsque Abraham réunit ses 12 tribus qui ne sont nées que beaucoup plus tard, puisqu'ils sont les enfants de Jacob. Ah, mince, mais non. Nous faisons le deuil un petit peu quelque part de la religion, mais alors là, en échange, nous avons la science, l'histoire, les paraboles, d'écriture aussi.
Oui, mais je pense qu'on fait le deuil du littéral de la religion, mais pas de l'esprit.
Exact.
Parce qu'alors moi, je suis infiniment respectueux de la spiritualité qui se dégage de la Bible. Mais j'essaie de lui donner une forme différente pour que de nouveau on réentende l'esprit. Vous voyez, c'est pas seulement une manière d'interroger les textes, c'est une manière aussi de les revitaliser avec un profond respect, mais évidemment beaucoup de liberté. Mais la liberté, elle est là aussi pour vous solliciter, pour vous titiller, pour vous dire, et si on racontait les choses comme ça, comment vous les comprenez? Vous voyez, il y a toujours un enjeu qui est complètement ludique et qui est plutôt un enjeu de stimulation. Moi, je suis pas du tout un provocateur.
Ah non, du tout. Justement, voilà. J'allais dire que c'est tout à fait visible. Parce que, par exemple, le projet d'un être humain, je suis née là maintenant, et mon arrière-grand-mère est née il y a 3 siècles, à peu près. Donc, ce n'est pas le même personnage. La vie change, l'humanité, les êtres humains changent, et c'est le projet de votre livre. Avec le temps, les choses se fécondent, sont polymorphes, prennent d'autres tangentes, et c'est tout à fait vrai. Le fait de casser des codes vous permet d'en créer d'autres et qui sont plus actuels, plus tangibles.
Oui, peut-être plus audibles.
Voilà.
Plus audibles, trouver des mots pour qu'on entende les choses.
Ouais. Et alors, en regardant donc autour de vous, puisque j'ai lu vos livres, nous avons eu des interviews très souvent dans le passé, et puis j'ai vu sur le net qu'il y a cette histoire de The Masterclass, The Artist Academy. Alors ça, c'est absolument passionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
La société est d'ailleurs complètement dirigée par des femmes, The Artist Academy, société française, m'a proposé il y a quelques années de faire une classe de maître, une masterclass, pour aider les gens à écrire, les gens qui ont le désir d'écrire mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et donc j'ai fait 21 leçons avec 21 exercices, à mon avis, qui sont très très utiles, et maintenant avec le recul, les étudiants me le disent. Alors quand je dis les étudiants, il faut bien voir que c'est extrêmement divers. Ça va effectivement de celui qui a, ou de celle qui a 20 ans, à des chefs d'entreprise, hommes ou femmes, à des juges, à des avocats, à des ingénieurs, il y a absolument tout. C'est des gens qui parfois ont même sont à la retraite, mais qui ont toujours eu ce désir d'écrire, mais qui n'ont jamais consacré assez de temps ou à ce désir d'écrire, ou n'avaient pas la méthodologie pour essayer d'avancer dedans. Donc voilà, moi j'ai enregistré ces masterclass, Et ça se passe merveilleusement bien. Alors depuis, la collection s'est élargie. Hein. Je sais qu'il y a d'autres écrivains. Il y a Marcus Bertrand qui a fait une masterclass de photographie. Gauthier Capuçon pour la musique, etc.
Et Manu Katché, j'ai vu qu'il y avait aussi Manu Katché.
Ah oui, ah. Non, ben, je ne savais pas.
Bah, pour le groove.
Voilà, ah ben c'est génial. Voilà, donc c'est ce principe de demander à des artistes qui se sont illustrés et qui sont reconnus dans une discipline de venir partager leur expérience avec des gens qui ont envie aussi de s'y frotter. Faut être très humble. Hein, moi je dis toujours. Chacun de nous est doué pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est être doué ? C'est réussir sans l'apprendre ce que les autres doivent apprendre. Voilà. C'est le don, c'est ça. C'est réussir spontanément ce que les autres doivent apprendre. Mais personne n'est doué pour tout, y compris dans l'écriture. Par exemple, il y a des gens qui sont doués pour le dialogue, mais ils ne sont pas doués pour la description. Alors, il faut travailler. Il y a des gens qui sont doués pour raconter une histoire, mais qui ne sont pas doués pour ourler la phrase. Moi, j'appelle mes étudiants toujours à un diagnostic de leurs qualités et de leurs défauts. Alors après, cultivez vos qualités et par le travail, supprimez vos défauts. Donc voilà, c'est une école de l'humilité qui est celle d'ailleurs que moi, j'ai essayé de pratiquer aussi parce que j'ai beaucoup appris des autres écrivains, morts ou vivants d'ailleurs, dans ma vie d'écrivain.
Votre écrivain, celui que vous lisez que avec bonheur, comme si c'était quelqu'un, un frère.
Oh, Colette. Ah. J'adore Colette, j'adore Maupassant, j'adore Simenon, j'adore Balzac. Mais je fonds devant un livre de Romain Gary aussi. Mm-hmm. J'ai un cœur d'artichaut, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines.
Et si vous deviez me proposer une musique pour sonoriser, illustrer cette interview que vous m'avez fait l'honneur de m'accorder ?
Oh, si vous mettiez du Chopin, je serais heureux.
Ah, bah j'adore, ça tombe bien, ça tombe voilà. Très bien.
Oui, parce que Chopin, c'est le musicien de l'intime, c'est celui qui se fait entendre en murmurant, pas forcément en faisant beaucoup de bruit avec un grand orchestre, le piano lui suffit. Et je trouve que cette modestie, moi, me touche jusqu'au fond de l'âme.
Je vous remercie, moi aussi, beaucoup, Éric-Emmanuel Schmitt, de l'Académie Goncourt, pour cette interview généreux, vivant, éblouissant, sur le livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, « Soleil sombre », et qui est le troisième volume du cycle de la traversée des temps. Alors, à bientôt pour le prochain.
Ben oui, j'espère. Merci beaucoup.
C'est moi. Au revoir.
Au revoir.
pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.